8h47 minutes.
Boulevard 102.1.
On est lundi, le 9 mars 2026. Je vous souhaite une super de belle journée. Quoi qu'à la météo, on sera pas gâtés. On l'était un peu ce matin parce qu'on a vu le soleil se lever, mais aujourd'hui, on nous parle de pluie et de la pluie verglaçante, plus précisément ce soir, maximum de 8 avec un minimum de 0. Ce sera glissant. C'est 4h30, 5h ce matin. Il y avait une petite givre là, sur l'asphalte qui laissait présager un fiasco sur l'autoroute, sur la route, parce qu'on va se dire c'était extrêmement glissant. Finalement, Mathias, ça a quand même été pas si pire au niveau des incidents.
Ça s'est plutôt bien passé ce matin. Là, ça roule bien partout présentement. Juste vous rappeler que l'accès à Duplessis en direction nord, là, c'est fermé l'accès est fermé par chemin des Quatre Bourgeois présentement.
L'accès est fermé par
Si tu veux accéder à l'autoroute du Plessis en direction nord, tu peux pas y accéder par le chemin des Quatre Bourgeois. L'accès à l'autoroute est fermé.
Voilà. J'allais dire, ramenez-moi Audrey. Pour me mêler encore plus. David Chabot qui est avec nous. Salut David, comment ça va?
Ben ça va bien, toi?
Très content de t'avoir avec nous autres. Le problème, c'est que t'as pas avancé ton heure. Hein? T'étais supposé être à 7h45, là.
Ben moi, mon invitation formelle, mon laisser, mon faire-part, oui. Parlait de 8h45.
Ah, OK, voilà, c'est ton faire-part.
Oui, exact.
C'est l'erreur de Jeff. C'est l'erreur de Jeff.
Honnêtement, je virais en rond à la maison pendant une heure.
C'est vrai?
J'ai lu un livre, écoute, là, j'ai vécu ma meilleure vie.
T'as lu un livre?
Ben, pas complet.
OK.
Quand même. Yannick. Soyons raisonnables, mais quand même. Un livre fascinant qui est sur les biais en politique. Écrit par un professeur de l'Université Laval que j'ai eu, qui s'appelle Benoît Béchard.
Oui.
Qui dit en gros... Mettons, là, si je résume, là, parce que je suis rendu vers la fin, là. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait, mais tout le monde fait son mieux. Ça c'est appuyé par la science.
Je comprends, mais quel est le rapport avec le biais en politique?
Parce qu'on a tous des biais par rapport à la perception, des biais de confirmation, des biais d'ancrage, ces choses-là. Puis l'humain qui est appelé à servir en politique, dans le fond, le postulat du livre, c'est de dire que t'as beau être expérimenté, t'as beau avoir tout le background académique que tu veux, c'est tellement compliqué faire la politique là, parce que les enjeux sont vraiment complexes et non pas compliqués, justement, sont complexes, les différences entre les deux, que personne ne peut vraiment bien faire en politique. Puis le professeur est super sharp, là. Benoît Béchard, je le trouve vraiment sharp, mais dans le fond, tu lis ça, t'es un peu découragé. Parce que dans un sens, tu te dis « j'aimerais ça que ce soit mieux ». Mais en même temps, j'aimerais ça que tous les élus lisent ça pour qu'ils comprennent, oui, effectivement.
C'est parce que la façon dont ils l'expliquent, c'est comme si tout le monde atteignait le principe de Peters rendu en politique.
C'est pas mal ça.
Ben oui, mais je veux dire, c'est pas normal. Là.
Ben non, mais...
Puis oui, on a tous nos billets parce qu'on vient tous d'endroits différents. Il y en a qui vont venir de milieux aisés, il y en a qui vont venir de milieux extrêmement pauvres. Donc nécessairement, les idées vont être... biaisé un peu par ça.
Oui, ça c'est nos biais d'ancrage souvent par rapport à ce qu'on a connu, là, effectivement. Mais quand t'es rendu dans le cockpit, il y a des affaires qui sont quand même assez simples, il y en a d'autres qui sont extrêmement complexes. Puis juste la nuance de complexe compliqué. Compliqué, c'est que dans le fond, il y a une façon de se rendre à bon port. Mettons, lancer une fusée dans l'espace, c'est compliqué, mais il y a des formules mathématiques, puis tu vas finir par être capable de le faire. Complexe, c'est qu'il y a tellement de variables qu'il n'y a pas de chemin tracé. Fait que c'est toujours différent. Lui, l'exemple qu'il donne dans le livre, c'est élever un enfant. Parce que t'as beau faire la même recette avec deux enfants différents, ça va donner des résultats différents.
Il a jamais pu si bien dire.
De le confirmer. Ah ouais, je comprends pas.
Le même père, la même mère, la même éducation. Deux complètement différents.
Exactement
ce que je dis. Mais où est-ce que j'ai raté?
Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce que j'ai...
Pourquoi?
Ils sont pas pareils.
Pourquoi quand je fais cette intervention-là, il y en a un qui écoute, puis l'autre, il s'en calisse?
Pourquoi ils ressemblent pas plus à leur mère? Pourquoi ils me ressemblent à moi? C'est le genre d'affaire. Mais bref, avant de perdre tout le monde, moi, en fin de semaine, j'ai écouté un podcast qui parlait des preuves que Dieu existe.
OK.
Mais vu par deux scientifiques...
Ah.
Puis sérieusement, c'était capoté, là, parce que moi, je crois à rien, OK? Mais à partir du moment où tu crois à rien, tout est possible.
Ben, effectivement. Et, ça, c'est agnostique.
Ouais. Et eux, ce qu'ils expliquent, c'est que nous, on a dans notre conception humaine le début et la fin. Parce que tout a un début, puis tout a une fin. Mais dans l'espace, là, ces règles-là, ils partent toutes, là. Tu comprends? Nous, dans notre cerveau humain, il y a un début et une fin toujours. Mais le début de l'espace, on ne sait pas si ça a déjà été un début.
Ben, c'est-tu le Big Bang? Les autres parlent d'avant le Big
Selon
Bang?
Selon les théories, mais je veux dire, c'est selon les théories, mais tu sais, si l'espace là, qui est en expansion constamment, là, finalement, c'est juste une bulle dans ton bain, à travers 150 autres milliards de bulles dans ton bain.
Ouais.
Ça a été quel début?
D'où qu'est venue cette bulle-là au final?
Fait que quand tu crois, comme moi, qu'il n'y en a pas de Dieu tel qu'il nous a été présenté par l'homme, parce que je pense que le Dieu qu'on nous a présenté, peu importe quelle religion, c'est une conception de l'homme. Mais quand tu doutes qu'il n'y a pas de Dieu, qui a créé ça? Mais encore là, c'est un réflexe humain de dire, pour créer un cellulaire,
ça prend un début,
ça prend un humain ou ça prend quelqu'un. Fait que, écoutez ce podcast-là pendant 60 minutes, là, ça s'appelle Legend. Légende, pas de E. Et c'est vraiment bon.
Mais là, cet être suprême-là, il serait venu de où? Puis d'où qu'il part? Ben c'est ça. Fait que c'est comme un cercle sans fin.
Mais
au final, pas de réponse.
Mais t'as posé la question à savoir si Dieu existe, mais là, tu prends deux experts scientifiques qui, eux autres, de mémoire, ils ont chacun leur religion. Là.
Okay.
C'est vraiment capoté. Puis tout est mathématique dans l'espace, là. Tu sais, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Puis ce qui te différencie de toi d'un moustique avec l'ADN, il n'y a pas une grosse différence d'ADN. Il y a des petites variantes. Tout est mathématique. Puis dans ce podcast-là de 60 minutes, sérieux, je suis tombé à terre. Là, à un moment donné, là, tu pars dans ta tête. Là, tu dis, écrif, ce gars-là m'amène carrément ailleurs. Là. C'est Stephen Hawking, mais tu comprends ce qu'il dit. Là.
Mais moi, j'en reste avec une question. Tu voudrais être la bulle dans le bain de qui, toi, dans ton univers, là?
Mais on sait pas. C'est ça, l'histoire. C'est ça, la beauté
de la chose. Non, mais je te
de
demande ton souhait, là.
Monica Bellucci.
OK. Okay. Ouais. Fait que dans un autre univers parallèle, tu serais une bulle dans son bain.
Dans le bain de Monica Bellucci. Ouais. Mais j'aurais pas le droit. Faudrait que je demande la permission. On est en 2026, après.
Bien
tout.
Sûr.
Ouais. L'idée d'avoir un prédateur sexuel en ondes, c'est pas mon idée.
Hey, on s'en va de ça à bonne place avec ça.
Ouais!
Il me semble que...
L'Iran!
Oui, ouais, c'est ça. Hey, j'ai des extraits à te faire entendre, David, puis je veux avoir ton opinion là-dessus. T'as-tu écouté Tout le monde en parle hier?
J'ai juste pogné en gêne de poitrine parce que je voulais comprendre pourquoi les gens étaient scandalisés, là, mais j'ai pas pogné le reste.
T'as-tu compris pourquoi les gens étaient scandalisés?
Ah, et laisse-moi pas partir là-dessus. Là.
On parle... Il y avait le prof Junot qui était à Tout le monde en parle hier, puis on parle du bilan là, en date d'hier pour ce qui est de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël.
Bien, je pense qu'une façon d'essayer de résumer ce qui se passe depuis presque 9 jours maintenant, c'est de faire la distinction entre le niveau tactique puis le niveau stratégique. Au niveau tactique, pour les États-Unis et Israël, c'est une série de victoires. Le leadership de la République islamique est en train d'être décapité. Les capacités militaires de la République islamique sont en train d'être affaiblies à chaque jour. Mm-hmm. L'économie iranienne va être encore plus affectée par les frappes sur les installations pétrolières, par exemple, sur les infrastructures critiques. Tout ça, c'est pas une surprise parce qu'on le sait, les États-Unis et Israël sont beaucoup plus puissants militairement que l'Iran, donc ça devrait pas être une surprise. Le défi maintenant, dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais surtout les prochains mois, c'est pour les États-Unis et Israël de traduire ces succès tactiques-là en succès stratégiques durables. Et c'est là où, au minimum, ça devient très incertain.
Le prof, c'était Thomas Junot, qui est professeur en affaires publiques internationales. Et ce qui m'a marqué là-dedans, c'est qu'il a l'impression que ça va durer encore des mois. Alors que moi, je pensais que c'était une intervention qui durerait quelques semaines.
Bien, je trouve que ce qu'il dit dans l'extrait est vraiment intéressant, là, parce qu'il y a le tactique puis le stratégique. Puis le tactique, c'est court terme, c'est vraiment sur le terrain. Le stratégique, c'est quoi tes grands objectifs que tu vas atteindre à moyen terme. Par contre, moi, j'aime ça laisser parler l'argent dans ces genres de situations-là parce que les marchés, ils sont souvent, ils ont pas mal plus raison que les émotions ou les analyses qu'on a à l'extérieur. On se parlait avant d'ouvrir les micros du baril de pétrole. Donc là, forcément, le baril a explosé. Là, il est passé de comme 50$, 50-60$ à jusqu'à un pic presque 125$ durant cette nuit. Puis là, ça a redescendu autour de 100$ le baril. Puis là, je me questionnais à savoir pourquoi ça monte, ça descend, puis tout ça. Puis il y a deux dynamiques, finalement, intrinsèquement là-dedans. La première, c'est que tout le monde a paniqué. Puis là, finalement, ceux qui avaient déjà des positions avant que ça panique, ils ont juste comme consolidé leur profitabilité. Là. Ils ont vendu pour pouvoir prendre le profit de tout ça. Mais l'autre point, c'est que, dans le fond, les marchés prédisent que le conflit ne sera pas très long.
Ouais. Et Trump a laissé entendre, j'entendais ça à Fox et CNN hier, il a laissé entendre qu'il pourrait peut-être lever des sanctions contre la Russie pour le pétrole.
Mais ça, je comprends pas où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça parce qu'il n'y a plus tant de contrôle sur ça. T'sais, il peut faire des sanctions économiques comme il y en a déjà contre la Russie, mais en ce moment, le gros du pétrole russe sort vers la Chine. Donc là, t'as pas vraiment de levier sur ces transactions-là.
Mais si t'augmentes les stocks, nécessairement, ça va donner un break à pression.
Bien oui, là, il y a toujours des réserves stratégiques à travers la planète. Là, on n'en parle pas souvent, là, on en parle du sirop d'érable, mais c'est pas tout à fait la même dynamique. Les réserves américaines sont pas si grandes que ça, mais en fait, ils ont le potentiel de l'être, mais ils sont pas remplis tant que ça. Mais dans le reste de la planète, dans le G7, il y a des réserves quand même intéressantes, puis on parle de débloquer ça pour donner une chance justement au prix du baril de pétrole, dans l'expectative que le conflit en ce moment ne durerait pas des mois et des mois. Fait que là, ben, tu relâches la réserve, les prix stabilisent, on finit le conflit, puis là, tranquillement, on remplit par la suite. Donc là, c'est un peu ça la stratégie à court terme. Mais il y a quand même un enjeu fondamental. Comment on va faire pour changer le régime? Parce qu'on se parlera de Khamenei 2 tantôt. Mm-hmm.
Mais la Russie, les États-Unis...
S'il n'est pas mort.
Pas encore.
Ouais. Les États-Unis et Israël ont-ils fait la même erreur que la Russie avec l'Ukraine? C'est-à-dire prendre à la légère l'Iran? Parce que l'Iran disait hey, « Moi, je suis prêt à aller au combat pendant 6 mois. » C'est vrai ou c'est pas vrai?
Bien, en fait, moi, ma lecture là après une dizaine de jours, c'est que je comprends toujours pas c'est quoi le plan. Parce que... je suis d'accord de déstabiliser ce régime-là. C'est des gens sanguinaires. Puis bon, on a fait toute la liste de leurs défauts. Là. Mais ça a toujours été la même question. Comment on fait pour changer le régime en place? Parce que frapper des airs, ça fait mal. Ça a littéralement tué le big boss Khamenei. Mais tu peux pas, à part être physiquement sur place, tu peux pas changer le régime à distance.
Ce que tu dis, c'est qu'on peut pas créer une démocratie artificielle. Faut que ça parte de la base.
Exact. Puis là, ben, on avait beaucoup d'espoir de voir les manifestants sortir dans les rues comme ils l'ont fait il y a quelques mois. Facile à dire.
Ils ont fait tout tuer.
Ben, c'est ça. Il y en a 30 000 qui ont passé au cash.
Puis là, ben, quand ça bombarde aussi du haut des airs, t'as moins tendance à lui faire une manifestation au centre-ville.
Exact.
Ouais. Fait que là, justement, c'est quoi la stratégie américaine dans tout ce contexte-là? Parce que là, on vient de changer de leader suprême. Là, c'est Mojtaba Khamenei, qui est le fils là, de l'Ayatollah Khamenei, qui est déjà mort. Lui est encore plus radical que son père, beaucoup plus proche de l'armée, des gardiens de la Révolution. Pis c'est un gars qui a l'air d'être un peu placé là-dedans, dans le sens de dire... Toi, tu deviens notre porte-parole, là, mais laisse-nous faire ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire lancer des missiles, des drones, puis déstabiliser toute la région. Donc là, on n'est pas plus avancé qu'on l'était d'un point de vue géopolitique. Donc là, on n'a pas remplacé, dans le fond, un boss par mieux, on a remplacé par pire.
Toujours avec le professeur en affaires publiques et internationales, Thomas Junot, qui était à Tout le monde en parle hier, on a parlé de l'arme ultime, qui est le détroit d'Ormuz.
Ben, depuis des années qu'on réfléchit à des scénarios de guerre avec l'Iran, j'étais au ministère de la Défense avant, comme vous l'avez mentionné, c'est sûr que tous les planificateurs militaires réfléchissent beaucoup à ça depuis des décennies. On le savait que la menace de fermeture ou de tentative de fermeture de détroit d'Ormuz, c'était un dernier recours pour l'Iran. C'est pas quelque chose que l'Iran ferait dans une crise moins importante, mais là, parce que la survie même de la République islamique est en jeu, c'est sûr que l'Iran va utiliser tout ce qu'ils ont. Puis tenter de fermer le détroit d'Ormuz, au moins à court ou moyen terme, c'est une des meilleures façons que l'Iran a de faire mal à tout le monde, y compris des pays qui sont pas impliqués dans la guerre, mais avec l'idée que ces pays-là ensuite mettent pression
réagissent,
sur les États-Unis pour arrêter la guerre.
C'est une excellente stratégie pour l'instant. Tous les pays vont mettre de la pression sur Israël, sur les États-Unis pour dire là, t'as peu, on est en train de crever de faim. Là. Est-ce que vous êtes bien au courant de ce que vous êtes en train de faire là?
Ben oui, c'est 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz. Okay? Fait que c'est pas banal. L'ironie de la situation, c'est que ils n'ont même pas besoin de le fermer physiquement parce qu'ils n'ont plus de Navy. Là. L'Iran s'est fait couler tous ses bateaux. Là. Ils ont perdu le battleship. Mais juste de dire faire la menace de dire qu'il est fermé, ce qui implique que si tu passes avec un bateau pétrolier, je vais te tirer un missile sur la tête. Juste ça, c'est suffisant pour dire que c'est assez pour le fermer physiquement.
Les questions d'assurance sont épouvantables.
Exact. Fait que là, Donald Trump, la semaine passée, a comme annoncé une mesure. Là, je ne l'ai pas investigué jusqu'au bout, mais de ce que je comprends, c'est que le gouvernement américain va remplacer les assureurs privés dans le détroit d'Ormuz pour dire...
On parle d'un budget de 20 milliards qui va être octroyé pour les assureurs.
Parce que, tu sais, comprenons-nous bien, là, un pétrolier qui coule là-dedans, là, au-delà de la catastrophe environnementale, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui se retrouve dans le fond de l'eau. Là. Donc là, les assureurs, c'est pour ceux qui sont peureux là-dessus. Puis là, ben, si le gouvernement américain prend la différence, puis là, j'ai hâte de voir si est-ce que c'est des pétroliers en direction des États-Unis, c'est-tu pour la planète en entier, parce qu'évidemment, ce pétrole-là peut être distribué aussi jusqu'en Chine. Donc là, c'est quoi l'ampleur, dans le fond, de cette couverture américaine-là? Puis, tu sais, connaissant Donald Trump, je pense qu'il est pas mal plus sélectif dans sa protection qu'il va offrir dans un contexte comme ça. Donc là, c'est quand même drôle que l'Iran n'ait pas dit qu'il est fermé le détroit, malgré le fait qu'ils se font frapper à gauche, à droite, puis qu'ils n'ont plus vraiment de capacité militaire. Ils pourraient juste, justement, lever la main puis dire « Hey, on va vous tirer des missiles ». Là, en ce moment, les bateaux passent très peu, juste parce qu'ils ont crainte de peut-être se faire cibler, même s'il n'est pas fermé officiellement.
Okay. Il y a des raffineries qui semblent avoir été ciblées dans les dernières heures, de ce qu'on comprend, mais est-ce que Trump pourrait dire « Vous laissez passer les bateaux, sinon on pète tout votre pétrole en Iran »
Ben, écoute, c'est déjà le cas, là. Il pleuvait du pétrole à Téhéran dimanche matin. Là.
Ouais, c'était pas beau à voir.
Ah, les images sont dégueulasses. Puis tu sais, imagine, là, imagine, il y a un missile qui tombe sur Valero à Lévis, là. Puis boum, ça fait péter ça, là. Puis l'ensemble de la région là, est sous une pluie de pétrole, là, que tout est noir, là. C'est quand même grave, là, ce qui se passe là. J'ai été surpris quand même qu'on aille là, parce que là, la justification, c'était de dire, ben là, on a enlevé la capacité d'utiliser le pétrole et donc l'essence et donc le carburant pour les besoins militaires iraniens. Mais encore une fois, il n'y a plus d'avions qui volent au-dessus de l'Iran. Il n'y a plus de bateaux. Les chars d'assaut ne servent à rien dans cette histoire-là. Donc là, on enlève quelle capacité, je ne sais pas trop. Mais ça reste que là, on a lancé un message qui a justement entraîné la panique là, dans les marchés qu'on a parlé tantôt jusqu'à 125 $, parce que quand on commence à s'attaquer aux raffineries, c'est là que ça fait mal pour vrai. Là.
Il y a beaucoup aux États-Unis, lorsqu'il y a mort de soldats, et là, il y en a 7 de tués, puis que ça vient jouer sur le portefeuille, il y a beaucoup d'Américains qui disent « Hey, wow, 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 tu vas où avec ta guerre ailleurs? »
C'est 30 %, hein? Les ouais. Américains qui appuient dans exactement, Trump dans
contre 43% qui étaient en désaccord, puis le reste qui était dans un dans l'indifférence ou ne savait pas encore où se positionner. Parce que ce 43%-là, justement, va augmenter avec 7 Américains tués. Puis là, Donald Trump qui a dit sur Truth Social, là, puis là, je vois un peu sur les mots, là, mais « Hey, petit peuple, c'est pas grave si l'essence augmente parce que vous allez comprendre. »
Ben c'est ça, tu sais, c'est un petit sacrifice qu'on peut faire à court terme là, de payer plus cher à la pompe. Petit sacrifice qui implique évidemment des vies humaines là, de tous les côtés. Je ne pense pas que c'est une guerre qui va devenir populaire à court terme, parce que si on avait un succès rapide à faire comme au Venezuela, là, les gens sont comme surpris par la situation, parce que forcément, c'est de l'information confidentielle jusqu'à temps que ça se réalise. Donc là, si ça avait été la même chose en Iran, peut-être que là, il aurait passé pour le génie de dire « Oh wow, t'as déstabilisé un régime puis t'as enlevé une roche dans le soulier du Moyen-Orient ». Là, ça s'enligne pas pour ça. Lui, il commence à préparer le terrain pour plusieurs mois. Puis il faut toujours écouter le discours politique pour voir qu'est-ce qu'on prépare dans le futur. Parce que des fois, il y a de la surprise comme là. Mais en ce moment, au moment actuel, là, le discours, on prépare le long terme. Donc là, ça veut dire que les États-Unis veulent opérer là-dedans dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis là, on se rappelle tout le temps qu'il y a les midterms qui vont arriver à l'automne prochain. Donc là, il va falloir qu'il souffle le chaud et le froid dans cette histoire-là pour pouvoir être capable de se désengager du Moyen-Orient avant les midterms, parce que c'est plus populaire une guerre aux États-Unis comme ça l'a été dans le passé. Après l'Afghanistan puis l'Irak, qui ont été extrêmement coûteux d'un point de vue humain et monétaire. Là.
Toujours avec le prof Juno, on a discuté des amitiés entre l'Iran, la Russie, la Chine. On a toujours pensé que ces trois pays-là étaient unis main dans la main, puis on se demandait mais pourquoi la Chine et pourquoi la Russie est très tranquille dans le dossier. Voici ce qu'avait à dire M. Juno.
Bien, la Russie et la Chine, c'est des partenaires de l'Iran, mais il y a eu souvent un peu d'exagération de la proximité de ce partenariat-là. C'est pas des alliés proches. En ce moment, la Russie et la Chine ont émis des déclarations très critiques des États-Unis. Évidemment, il y a un aspect un peu ironique à M. Poutine qui critique une violation du droit international puis la violation de la souveraineté d'un autre pays. Mais si on met cet aspect-là de côté, la Russie et la Chine, premièrement, leur faiblesse militaire est évidente. Ils ne sont pas capables de faire ce que les États-Unis sont en train de faire, juste au niveau technique. Ils ne seraient pas capables d'intervenir pour sauver l'Iran, même s'ils voulaient. Mais de toute façon, ils ne veulent pas. Un aspect qui est essentiel à garder en tête ici, c'est que oui, la Russie et la Chine ont des relations avec l'Iran. Ils vont aider l'Iran un peu, mais la Russie et la Chine ont aussi des relations très proches avec les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite, avec le Koweït, avec le Qatar, qui en ce moment sont en train de recevoir des centaines de drones et de missiles iraniens par la tête. C'est des relations qui sont très importantes pour la Russie et la Chine. C'est des partenaires qui sont beaucoup plus faciles et prévisibles que la République islamique, qui n'est pas un partenaire facile du tout. Alors la Russie et la Chine, ici, font bien attention pour calibrer, pour mettre plusieurs œufs dans plusieurs paniers, mais s'ils intervenaient trop du côté de l'Iran, ils se mettraient à dos des partenariats au niveau du pétrole, au niveau du commerce en général, qui sont très importants pour eux ailleurs dans le Golfe, dans les pays arabes.
Franchement intéressant, ce prof-là.
Mais je trouve qu'il vulgarise bien. Là. Oui. Sincèrement, les trois extraits à date, là, il est 100%. Je rajouterais, dans le fond, à ce qu'il vient de dire. Il y a deux choses, dans le fond, il y a deux dynamiques. Là. Quand tu veux partir un conflit, avec des, dans un contexte de superpuissance comme la Chine, puis bon, la Russie ne l'est plus vraiment, mais les États-Unis, puis tout ça, quand tu es le premier à partir le conflit, tu as déjà un peu gagné la game parce que les autres superpuissances ne vont pas embarquer. La réponse est simple, c'est le nucléaire. Donc là, si la Chine embarquait dans un conflit en Iran, forcément, toutes les simulations militaires amènent toujours à la même chose, c'est que c'est une guerre nucléaire entre des puissances comme ça, parce que ça commence par des avions, puis des bateaux, puis là, ça monte en missiles balistiques, puis là, ça finit en nucléaire. C'est tout le temps la même chose. Donc là, quand t'es le premier à caler le shotgun, ben t'as un peu gagné par rapport à tes compétiteurs, puis on le voit avec la Russie en Ukraine, il y a personne qui ose intervenir parce qu'ils sont déjà rentrés là-dedans, puis la même dynamique se reproduirait. Si l'OTAN rentrait en Ukraine, ça finirait en guerre nucléaire. Le deuxième point, c'est que ce qu'il dit dans son extrait, c'est que la mondialisation a eu bien des effets négatifs, mais a eu des effets positifs très profonds, parce que tu ne veux pas attaquer tes alliés. Tu ne veux pas attaquer ceux qui permettent de faire de l'argent, qui te permettent d'avoir des sources énergétiques, puis bon, tout ce qui vient avec. Donc là, ce qu'il dit, là, c'est la Chine et la Russie, mais particulièrement la Chine, hésitent d'intervenir dans un conflit régional comme ça parce qu'ils ne veulent pas fâcher leurs alliés avec qui ils ont des échanges économiques. Puis là, ben, ça revient au point de l'isolationnisme à la Donald Trump, quand tu te retires de toutes les considérations internationales. Donc, que ce soit bon les ONG là, comme l'ONU, puis tous les trucs de droits humains, puis que tu te retires des partenariats économiques, puis etc., ben, tu deviens plus vulnérable parce que finalement, les gens ont de moins en moins besoin de toi. Puis qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas besoin de quelqu'un? Ben, tu t'en fous. Fait que s'il y a un conflit, si ça chauffe, si ça s'accroche, ben, tu n'as plus grand-chose à perdre de te pogner avec. Fait que là, ben, tu te gênes pas. Puis c'est un peu ce que la Russie a vécu en Ukraine parce que oui, il y a pas eu de confrontation directe avec l'OTAN, mais l'OTAN s'est pas gêné pour les contrecarrer parce que la Russie s'est tassée dans le coin tranquillement à travers l'OTAN. Donc là, c'est un gros pensez-y bien là, d'aller mettre son doigt dans tout ce qui se passe en ce moment, d'autant plus que Israël est en mode « je fais le ménage dans le secteur », puis là, ben, tout le monde est un peu sénère à savoir qui vont frapper après. Là, ils sont en train de relancer les hostilités au Liban, qui est à proximité d'Israël. Le Hezbollah avait fait des menaces, le Hezbollah qui était très, très lié au régime iranien. Donc là, tout le monde est comme un peu à se dire, OK, là, Israël a enlevé les gants puis donne des coups de poing sur la gueule à tout le monde. Les États-Unis appuient ça, fait que là, je vais me tenir tranquille.
Oui, parce que là, Gaza, il a passé. Là, c'est le Liban avec l'Iran. Est-ce qu'il y a d'autres pays au Moyen-Orient qui peuvent craindre pour une attaque israélienne possible?
Ben, en fait, les trois points, là, actuellement, c'est les deux que tu viens de nommer, donc la Palestine, là, on va le dire en plus généralement, le Liban, puis le Yémen avec les Houthis. Les
Houthis, ouais, c'est vrai.
Qui n'ont pas fait grand-chose en ce moment parce qu'eux autres savent très bien que, d'abord, ils ne sont pas très équipés, que leur allié naturel, c'est-à-dire l'Iran, se fait taper sur la tête, puis que le jour où ils lèvent la main, je parle des Houthis, pour dire qu'ils veulent faire du trouble dans le secteur, c'est la fin des émissions. Donc ça, c'est les trois points de résistance majeurs qui venaient avec l'Iran, parce que l'Iran finançait beaucoup ces organisations-là qui sont terroristes là, aux yeux de la planète. D'autres pays qui voudraient embarquer là-dedans, ben, tu sais, dans le fond, les dernières années ont donné une chance à Israël, là, parce que la Libye, ça a disparu là, avec le printemps arabe. L'Égypte s'est tenue tranquille depuis la guerre des 7 jours du Yom Kippour. Après ça, il y a eu la Syrie qui est tombée avec la guerre civile, puis tout ce qui est venu avec. La Jordanie n'ira jamais se mêler de tout ça. Donc là, après ça, il reste les pays pétroliers qui ont tout intérêt à garder ça tranquille, faire de l'argent comme de l'eau, puis bâtir des tours de 858 étages. Là. Fait que, tu sais, je pense pas que ça peut vraiment déraper tant que ça. Il n'y a pas d'allié naturel, mettons, pour l'Iran. Reste que quand on revient avec la Chine et la Russie, tu veux pas déstabiliser cette région-là puis choquer tous tes alliés qui te fournissent de l'énergie à pas cher. Là.
Effectivement. Dernier sujet, David, je trouve ça intéressant. J'ai aucune idée de quoi tu vas me parler. Au Canada, on a un service de renseignement qui s'appelle le Service de renseignement canadien. Ils sont principalement basés à Ottawa, mais il y a des bureaux qui sont régionaux, qui sont les gens qui travaillent au Service de renseignement canadien. Ben, tout ce que vous avez dans les bureaux, il y a de ce type de personnes-là, mais il y a des analystes et il y a aussi des agents de renseignement qui peuvent travailler sur le terrain. Que ce soit au Canada ou encore que ce soit à l'extérieur, pour ceux qui ont connu dans les médias Michel Junot-Katsuya, ben lui, c'est un agent de renseignement qui allait parfois sur le terrain pour recueillir de l'information au bénéfice du Canada, bien entendu. Mais toi, ce que tu veux nous apporter comme sujet, c'est qu'on a déjà tenté d'avoir une CIA au Canada?
Oui, c'est la presse qui rapportait ça en fin de semaine, puis j'ai trouvé ça fascinant. On connaît le SRS comme une agence vraiment de collecte de renseignements. Donc là, eux autres, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est juste de faire des recommandations au gouvernement. Puis quand ils ont des dossiers vraiment sensibles de terrorisme, ils réfèrent ça à la GRC. Si on recule un peu dans le temps, avant le SRS, c'était la GRC qui gérait tout ce qui était les services secrets, puis le renseignement, puis le contre-espionnage, puis etc. Là, il y a eu plusieurs enjeux un peu particuliers avec la GRC avec le temps, là, certains scandales dans les années 70 qui a fait la création de la excuse-moi, du SCRS. L'article nous dit qu'on a pensé faire deux volets, un peu comme en Grande-Bretagne, où ils ont le MI5 puis le MI6. Donc là, il y en a une qui est vraiment tournée vers l'intérieur du pays, puis l'autre qui est tournée vers l'international. Donc là, en Grande-Bretagne, le MI5, si je ne me trompe pas, ben, c'est tout ce qui est la menace intérieure, le contre-espionnage, etc. Puis le MI6, c'est vraiment tout ce qu'on va aller espionner ailleurs dans le monde pour aller chercher du renseignement de qualité. Le Canada n'a pas cet appareil-là de renseignement extérieur. Le SCRS, va en faire de temps en temps. Il y a des agents qui vont se promener à travers la planète, mais ils n'ont pas de capacité, en bon français, kinétique, c'est-à-dire d'aller assassiner, aller enlever quelqu'un, les amener dans un set noir pour des interrogatoires.
Qui fait cette job-là au Canada?
Ben, au Canada, il n'y a personne qui fait cette job-là.
T'es-tu vraiment sûr?
Ben là, c'est sûr que c'est tout le temps... Tu sais, on est des gens qui dépendent de l'information publique. Mais ouais. Peut-être que c'est le cas, mais à ma connaissance, pas vraiment ça.
Ouais, parce que la meilleure police secrète...
C'est la police secrète.
C'est la police secrète.
Mais tu sais, en même temps, mettons le fameux GTF-2, les forces ultra spéciales canadiennes qui sont vraiment réputées à travers la
c'est
planète.
C'est une groupe tactique.
On sait qu'ils existent.
Ouais.
Puis on sait à peu près comment ça marche, mais on n'a pas de renseignements.
Il y a plusieurs filles, d'ailleurs, qui m'ont dit avoir rencontré des bars, des gars qui font partie de cette unité d'élite-là. Le problème, c'est que les gars, s'ils te le disent, ça marche pas.
Ah, c'est qu'ils n'en font pas partie, sûrement.
Il y a des grosses chances.
Ouais, il y a souvent des affaires sur Internet, hein, tu sais, des stolen valor aux États-Unis. Là. Moi, je suis dans les Navy SEALs, puis là, je suis airborne, puis je suis médic, puis t'as peu, calme-toi. Mais en tout cas, bref, c'est pour dire qu'on va revenir dans notre histoire. On n'a jamais créé cette agence externe-là. Donc là, la pression venait des autres pays parce qu'on fait partie des Five Eyes, qui est comme une organisation un peu informelle qui est liée au Commonwealth avec la Grande-Bretagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Puis je pense que les États-Unis sont là-dedans, puis nous. Donc là, on échange du renseignement là-dedans. Mais là, nos partenaires nous disent, tu sais, dude, ce que tu nous donnes, ça a une valeur, mais pas tant que ça parce que tout ce que tu collectes, c'est essentiellement ce qui se passe sur ton territoire à toi. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient, en Chine, en Asie, whatever. Fait que là, cette pression-là a amené à vraiment réfléchir sincèrement à faire une CIA. Finalement, c'est une CIA canadienne. C'est jamais arrivé pour une question budgétaire, premièrement, parce que c'est toujours ça l'histoire de la défense et de la sécurité au Canada, c'est qu'on fait les mauvais choix ou on fait pas tous les choix complets parce que ça coûte trop cher. Donc là, on n'a pas créé ça. Puis là, ben, on se retrouve dans une situation où la SRS a comme un mandat qui est assez clair, qui est encadré par la loi, qui est transparent pour tout le monde. Mais notre capacité de collecter de l'information ailleurs puis se défendre contre la menace terroriste éventuelle, parce que ça peut arriver de plus en plus avec ce qui se passe dans le monde, ben, est très limitée. On dépend vraiment des renseignements de ce que les autres pays vont nous amener pour pouvoir faire notre propre analyse puis déterminer notre stratégie.
On me dit que GTFX, ce serait ça l'unité de renseignement canadien.
Écoute, là, ça serait le fun de gratter ça, mais tu sais, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de renseignements là-dedans.
C'est secret.
Je pense que le GTFX en question, c'est l'espèce de bras de renseignement militaire qui est lié au GTF2.
Exact.
Donc là, ça, c'est vraiment purement militaire. Évidemment, il va y avoir du contre-terrorisme là-dedans, puis là, ça va se mélanger un peu. Mais tu sais, on parle vraiment de, par exemple, faire de l'espionnage industriel, là. Aller envoyer des James Bond dans des usines de haute technologie comme eux font chez nous. Nous, on fait pas ça chez les autres. Puis là, il y a une question morale là-dedans. On veut-tu faire ça? Est-ce que le Canada va embarquer là-dedans? Mais on n'a pas cette capacité-là, à ma connaissance. Donc là, ça finit que tu te bats tout le temps un peu à armes égales parce que tes ennemis, dans le fond, ils ont leurs deux points, puis toi, t'en as un qui te collé dans le dos. T'sais.
David Chabot, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Merci, les boys.
Bye-bye, good job.